Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de, bah à la fois de, bon, vas-y, d'être invité pour que on puisse passer un moment avec vous, partager aussi ce qu'on a à cœur de vous partager. Et aussi, comme disait Clément tout à l'heure, il me l'avait peut-être dit, mais j'avais oublié que c'est la première fois que vous vous retrouvez, donc je me réjouis avec vous. Je pense que ça doit être vraiment sympa de se retrouver après une longue période où vous vous êtes peut-être pas vu au sein de CFC. Et du coup, je suis content d'être avec vous à ce moment-là. On va peut-être juste se présenter rapidement tous les deux, et après, je vais vous expliquer rapidement aussi ce que fait Arocha. Et Thibaut va expliquer un peu la fresque, en quoi ça consiste, etc. Et on va commencer à se mettre en place pour d'abord un bon temps de 1h, 1h30 sur la fresque par petit groupe. Après, on fera un petit récap, je ferai un petit récap et quelques éléments de perspective biblique sur le sujet. Ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses et on pourra se remettre dans les petits groupes, mais plus juste pour discuter, échanger et puis surtout prier ensemble. Voilà le programme. Tant que j'ai la parole, je me présente rapidement. Donc, Timothée, j'ai 30 ans. Je suis ingénieur dans les énergies renouvelables depuis pas très longtemps. Je suis à l'église Connexion que certains, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, donc qui est aussi dans Paris. Et je suis aussi assez engagé avec Arocha depuis quelques années en tant qu'ambassadeur. Voilà. J'ai déjà fait quelques fois des fresques du climat, mais Thibaut est beaucoup plus expert que moi sur la fresque. Vas-y, tu veux te présenter.
Bonjour, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans et je suis actuellement en doctorant en mathématiques appliquées. Et pareil, je suis à l'église Connexion, tout comme Timothée. Et ouais, moi j'ai commencé à travailler avec la fresque lors de la COP à Barcelone, donc il y a 2 ans, si on s'en souvient bien. Et après, donc j'ai continué à en faire ici et là, que ce soit en entreprise ou avec des amis ou dans différentes communautés.
Merci. Et alors du coup quelques mots juste sur Arocha. Alors peut-être que vous connaissiez pas Arocha. Je vous rassure, moi non plus je connaissais pas avant de me mettre sur les sujets de l'écologie. J'ai pu rencontrer à travers des amis et en fait j'étais très content de trouver une association chrétienne qui depuis plusieurs dizaines d'années, 20-30 années, œuvre et travaille sur les sujets d'essayer de réconcilier la foi et l'écologie, d'avoir une perspective chrétienne de l'écologie. Donc Arocha a en France deux centres sur lesquels Arocha fait la première partie de son activité qui est d'avoir une action scientifique de terrain, de conservation, de préservation de la nature, donc vraiment sur la biodiversité. Les deux centres sont dans le sud de la France, un près de Nice et un près de Arles. Donc là, c'est vraiment de l'action scientifique, de surveiller, observer la création, observer des espèces, voilà, d'avoir vraiment une action de terrain pour protéger la nature. Et il y a tout un deuxième pan de l'activité qui est de sensibiliser les chrétiens sur les aspects de l'écologie, de mettre en mouvement, de donner les clés un peu aux chrétiens pour s'engager. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est complètement dans le feu des préoccupations, de l'actualité. Donc là-dessus, on a énormément de travail et c'est ce qu'on fait notamment à travers un programme ambassadeur dans lequel ce qu'on veut faire, c'est de former des gens qui soient des ambassadeurs entre guillemets de Arocha, donc qu'ils soient capables d'aller dans des églises pour des sollicitations diverses, pour pouvoir apporter une perspective chrétienne de l'écologie, parce que souvent le problème des églises, c'est qu'elles ne sont pas forcément formées sur ces sujets. Donc c'est vraiment le but de tout ce pan qu'on est en train de monter avec les ambassadeurs, donc à la fois pour former des ambassadeurs, mais aussi qui permet tout à fait de former n'importe qui, quel chrétien qui est intéressé par le sujet, sans avoir forcément l'ambition d'aller dans des églises à droite à gauche intervenir. Et donc ça, je pourrais peut-être revenir un peu dessus, mais voilà, on fait des formations tous les mois sur Zoom avec des thématiques qui sont vraiment intéressantes. Tout est aussi disponible sur YouTube sur les précédentes. Donc si vous avez vraiment envie de creuser le sujet, voilà, on travaille beaucoup pour créer de la matière et pour vous permettre aussi d'approfondir tout ça. Voilà. Et du coup, si tu veux donner quelques mots peut-être sur la fresque avant qu'on
D'accord.
se mette en place.
Du coup, la fresque du climat, en fait, c'est une association qui a été créée par Cédric Rickenbach, il me semble. Et en fait, il a développé au cours, en fait, il s'est intéressé au changement climatique. Il a développé un jeu qui permet d'expliquer les causes et conséquences du changement climatique. et pour le mettre en place de façon tridactylienne. Et pour ce faire, en fait, il a créé un jeu de cartes où chacune de ces cartes sont reliées à d'autres cartes par des liens de cause à effet. Et en fait, le but du jeu, c'est tout au long de cette heure ou heure et demie, c'est de retrouver en fait ces liens entre ces différentes cartes et de comprendre un peu d'où vient le changement climatique et quelles sont les conséquences du changement climatique. Voilà.
Donc, on va vous demander de vous lever, de mettre toutes les chaises sur le côté. Je ne sais pas si on les empile. Alors, j'ai l'impression que toutes les tables commencent à être logistiquement installées. Vous avez fait un petit peu le tour des prénoms pour se connaître. Donc, ce qu'on va faire avec Thibaut, c'est qu'on va vous distribuer au fur et à mesure des cartes. Donc, comme disait Thibaut, la fresque, c'est un jeu de cartes. On va vous distribuer 4 lots de cartes et le but, ça va être de les poser en partant d'un coin de la table jusqu'à l'autre pour tirer la chaîne des causes-conséquences, en gros, du réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment l'objectif du jeu, c'est ensemble, de manière collaborative, de discuter, de comprendre, de s'expliquer les uns les autres et de poser les cartes et de tirer des traits un petit peu entre elles. Donc, on va tirer les traits au bout du deuxième ou troisième lot, mais là, juste en posant les cartes, se dire bah voilà quelle est la carte tout en haut au début qui engendre quoi etc. Donc au verso il y a les explications mais ce qu'on propose c'est au début essayer déjà ensemble avec le lot là de commencer à poser les cartes sur la table réfléchir se dire comment ça sans regarder encore le verso on pourra regarder le verso après et voilà c'est vraiment comme ça que ça permet de manière assez pédagogique de vraiment comprendre un petit peu tous les mécanismes qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque
Ouais, je
chose.
pense à partir du troisième lot, généralement, les gens commencent à regarder derrière les cartes pour mieux comprendre les différentes interactions. Si vous pouvez attendre le troisième lot, ce serait idéal.
Voilà.
Je vous distribue.
Bon, là, je crois qu'on a 5 titres. Ce
Oh.
que je vous propose, c'est de faire un petit peu le tour de chacun. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre groupe qui vous dit c'est quoi le titre. Et voilà, donc à la table ici, là, quel est votre titre du coup?
CFC, Christians for Change.
Wow.
Ok.
C'est quoi le premier sens, c'est quoi?
CFC.
Ah,
et du coup, au fond, quel est le titre que vous avez choisi?
L'entonnoir des bêtises.
L'entonnoir des bêtises. Super. Au milieu, du coup?
Alors, nous, on a pris l'effet papillon.
Ok.
Ah.
Ouais. Au fond, à droite.
Et voilà comment l'homme exploite la terre de Dieu.
Ok. Et voilà. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez mis?
La folie des hommes.
La folie des hommes. Super. Ok, bah, je pense qu'on peut tous s'auto-congratuler. Enfin, je trouve que c'était. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On va avoir l'occasion d'en rediscuter. Juste en profiter pour libérer Thibaut qui doit partir aider des amis à déménager. Donc on peut aussi remercier qui d'être venu. J'aurais eu un peu du mal d'animer 5 tables sans Thibaut, donc merci d'être venu. Ouais. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Merci d'avoir bien participé aux ateliers en tant qu'animateur. C'est toujours vraiment sympa comme truc aussi pour voir comment ouais, d'être dans la transmission et de voir aussi les groupes qui discutent, qui apprennent ensemble. Donc, pour ça, ouais, c'est un exercice que je trouve, un outil que je trouve vraiment chouette. Donc je suis content de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses. D'habitude, dans le format, donc c'est un outil qui est pas fait par des chrétiens. Donc d'habitude, dans le format, ce qui se passe après, c'est que on colorie la fresque pour aussi exprimer un peu de la créativité sur la fresque. Et après, il y a des tours de parole pour laisser sortir les émotions, l'anxiété qu'il peut y avoir, parce que c'est quand même, je pense, là, on a un ton un peu léger, un peu jovial, mais c'est quand même des choses assez lourdes qu'on voit. Je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez ça ou autre, mais voilà, pour nous, du coup, en tant que chrétiens, la suite, la manière d'aborder le sujet, on va dire, c'est vraiment d'essayer de dresser une perspective chrétienne par rapport à ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu découvrir ensemble sur la fresque, et puis de voir comment est-ce qu'avec Dieu on chemine avec ça, comment est-ce que quelle espérance on a en Dieu et comment est-ce que voilà on lui fait confiance et on se remet à lui dans la prière. Donc je vais juste prendre 10-15 minutes pour partager quelques perspectives chrétiennes sur ce qu'on a vu, après prendre quelques questions et ensuite on pourra se remettre dans les petits groupes que vous aviez pour continuer d'échanger un petit peu, enfin, selon le temps qu'on aura, et surtout passer du temps aussi à prier ensemble, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on prenne aussi du temps dans la prière pour vraiment remettre ces sujets à Dieu. Voilà, donc je vais juste repartir de quelques illustrations tirées de la Bible pour faire un peu un lien avec ce qu'on a vu. Je vais prendre principalement Genèse chapitre 1 à 3 et aussi Romains 8. Donc si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à prendre ces passages. Et c'est vraiment des passages que je vous invite à reprendre, à relire et à méditer, parce que c'est, je dirais que dans la Bible, ça fait parmi les passages de la Bible qui sont les plus clairs et les plus explicites vraiment pour donner un sens et creuser ces sujets. Donc Genèse chapitre 1 à 3, enfin, vraiment sur la création, comment est-ce que Dieu ordonne créer et comment est-ce que quel mandat est-ce qu'il nous donne vis-à-vis de la création. Et Romains 8, on aura l'occasion de le découvrir. Donc je vais lire si vous avez sous les yeux Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants, que des oiseaux volent dans le ciel et au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce, il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce, Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela se passa ainsi, Dieu fit les animaux terrestres selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux. Ce sera pour vous votre nourriture, à tout animal de la terre, À tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. C'est le récit de la création. Six jours résumés en une bonne lecture. Je ne sais pas ce que vous retenez juste de cette lecture, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient régulièrement, c'est que Dieu dit que c'est bon. Il est vraiment satisfait de sa création et considère que c'est une bonne chose qu'il a créée. Donc le premier point important vraiment sur lequel on peut s'accrocher, et c'est aussi quelque chose que, dont on peut, qu'on peut aussi reconstater en faisant la fresque, c'est de recontempler la création, tous les océans, on parle des glaciers, on parle de tout ça. C'est vraiment Dieu qui a créé tout ça et il l'a créé, il a dit c'est bon, ce que Dieu a créé est bon. Donc ça c'est vraiment le premier point. Ensuite, si je lis un petit peu plus tard, Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Je trouve que c'est assez intéressant comme verset ça, parce que c'est un peu un des premiers commandements que Dieu donne à l'humanité, c'est que on soit dans le jardin d'Éden et qu'on le cultive et qu'on le garde. Cultiver, c'est travailler, c'est servir le jardin. Garder, c'est soigner, embellir, surveiller, protéger le jardin, c'est vraiment prendre soin. Et d'une certaine manière, si on fait un petit peu le lien avec la fresque, ce mandat de cultiver et garder le jardin, c'est un peu le début de la fresque. Quand derrière la première carte, il y a écrit « Activité humaine, c'est là que tout commence », on pourrait presque, si on fait une fresque chrétienne, prendre cette carte et écrire derrière « L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde ». Donc voilà, c'est un petit peu là que ça commence et derrière que on va tirer les activités humaines qui nous amènent à nous nourrir et qui d'une certaine manière font partie du mandat de Dieu, de prendre soin de la création, de l'exploiter. Enfin, cultiver le jardin, c'est un peu exploiter le jardin, garder, c'est le protéger. Il faut qu'on s'en nourrisse. Donc ces activités humaines, d'une certaine manière, elles font pleinement partie du plan de Dieu. Donc c'est vrai que de là, on peut se dire, mais du coup, où est le problème ? C'est quoi le problème ? C'est les activités humaines, c'est le CO2, c'est le pétrole, c'est l'effet de serre. Si on se rappelle ce qu'on a dit au tout début, Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il constate que c'est très bon. Donc d'une certaine manière, on peut même se dire que le CO2, c'est quelque chose qui est bon. Le pétrole, c'est bon. L'effet de serre, c'est bon. Tout ça, c'est des choses que Dieu a créées. Donc c'est quelque chose qui est bon. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu une idée du problème. J'ai un petit peu entendu dans les groupes. Je pense que vous avez, dans notre compréhension chrétienne du monde, et peut-être c'est déjà aussi la perspective que vous aviez sur les enjeux liés à l'écologie, vraiment une chose qu'on peut se dire et qui est vraiment un des piliers essentiels d'une approche chrétienne de l'écologie, c'est que le problème, en fait, c'est le péché. Et ça, du coup, c'est ce qu'on voit juste après. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de prendre la Genèse. Donc c'est ce qu'on trouve dans Genèse au chapitre 3. Alors, le temps, je ne sais pas si je vais tout lire. Donc, voilà, si je vais tout lire. Comme ça nous permet de nous remettre en tête ce chapitre. Donc au chapitre 2, Dieu dit à l'homme, donne des commandements à l'homme et à la femme, notamment celui de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Genèse chapitre 3, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu mangeras sur ton ventre, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Voilà, je m'arrête juste là. Donc du coup, comme je disais, voilà, le début de la fraise, c'est les activités humaines, c'est vraiment la création est bonne, et c'est ce que Dieu nous enseigne et nous dit de faire, de cultiver et garder le jardin. Et du coup, le problème arrive à la chute au niveau du chapitre 3 de la Genèse. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment la désobéissance de l'homme et la femme, et l'introduction de la rupture entre l'humanité et Dieu, et aussi les conséquences physiques pour la création à travers l'arrivée de la souffrance, de la maladie, de la pénibilité du travail. C'est aussi quelque chose qui, du coup, est beaucoup illustré dans Romains 8, dans Paul qui écrit aux Romains et qui explique combien est-ce que la création est souffrante et complètement imprégnée de la rupture du péché et du péché de l'homme. C'est ce qui cause les dérèglements, la météo comme des cyclones, enfin voilà, tous ces effets-là, ça c'est vraiment des conséquences de la chute. Et c'est ce qui fait que les activités humaines qui à la base sont quelque chose voilà, que Dieu nous donne, qui est le commandement qu'il nous donne, mais qui conduisent à des dérèglements, que l'on voit vraiment après sur tout le déroulé de la fresque. Donc je lis juste dans Romains 8 sur deux versets, Romains 8 versets 18 à 20. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc ouais, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vraiment la création est dans l'attente de sortir de l'état de chute. La création était soumise à l'inconsistance. C'est vraiment la conséquence du péché. C'est la racine du problème, c'est vraiment vis-à-vis du péché, de la rupture de la relation avec Dieu. Donc ça permet voilà, de dire, donc, le deuxième point vraiment fondamental, la racine du problème c'est le péché de l'homme, mais heureusement on ne s'en arrête pas là, on sait qu'on a le salut par le sacrifice de Jésus à la croix, ce salut qui nous libère et en même temps qui libère aussi la création. Donc ça c'est les versets qui suivent directement ensuite dans Romains 8, donc au verset 21 à 25. Toutefois elle a l'espérance, donc la création, d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous voyons, nous l'attendons avec persévérance. Donc voilà, la création et nous avons, enfin et nous, humanité, hommes, femmes, avons aussi cette espérance de pouvoir aller au-delà de l'état de rupture, de chute, du péché, mais avons l'espérance de pouvoir être libérés en Christ. Voilà, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que derrière ce constat, cette perspective chrétienne des crises écologiques qui, pour nous, pointe vraiment le doigt et on met vraiment l'accent sur le péché, de se dire que bah, de même, là où nos contemporains vont chercher des solutions humaines, des solutions techniques, nous, on a vraiment une approche, une espérance où en fait, on est vraiment focalisé sur Dieu parce qu'on sait que la seule solution au problème du péché, la seule solution, c'est vraiment le salut en Jésus. C'est seulement en Jésus que Dieu réconcilie l'humanité avec lui, que Dieu restaure la création et que Dieu restaure tous les problèmes, les écosystèmes et tout ça. Donc c'est vraiment un point que je voulais, sur lequel je voulais insister. On a vu la fresque, on s'est réimprégné un petit peu des défis sur l'écologie. Et tout ça vraiment pour bien poser les bases et expliquer que la crise écologique, d'une perspective chrétienne, ça peut vraiment se résumer dans ces trois vérités bibliques qui sont que Dieu aime le monde et la création qu'il a créée est vraiment bonne. C'est une bonne chose et c'est beau. Deuxièmement, la racine du problème, c'est le péché de l'homme. Il n'y a pas d'autre problème. Si on creuse les sous-jacents de toutes les crises écologiques ou même sociales que l'on a aujourd'hui, la seule source du problème, c'est vraiment le péché. Et la seule solution que l'on peut mettre en avant et vers laquelle on doit tendre, et qu'on doit aussi proposer à nos contemporains, c'est le seul salut qui est en Jésus. Donc voilà, je voulais juste dresser un petit peu ce panorama et proposer ensuite juste quelques perspectives pour se dire comment est-ce que nous-mêmes, ça peut nous impacter. Moi, une manière avec laquelle j'aime bien aborder ces sujets, c'est de vraiment m'en tenir aux vérités. Enfin, c'est un peu un sujet comme un autre en termes de péché, de vie avec Dieu. Donc, s'en tenir un peu aux fondamentaux de comment est-ce qu'on vit notre vie avec Dieu. D'une certaine manière, je trouve que la fresque aide aussi à se rendre compte, de prendre conscience de certains de nos péchés, de nos comportements par rapport au mandat que Dieu nous donne de prendre soin, de conserver la création. On voit aussi que dans les conséquences, tout à la fin de la fresque, sur les crises, les conflits armés, les crises migratoires, etc., c'est des choses qui vont impacter des populations sur lesquelles on peut dire, est-ce que faire partie de ce mécanisme, c'est d'une certaine manière, en faisant partie, est-ce que c'est comme ça que j'aime mon prochain, que je prends soin de mon contemporain qui aujourd'hui habite dans des zones du monde qui sont particulièrement touchées par les dérèglements climatiques, ou même les futures générations qui vont naître en 2040, 2050, la génération de peut-être nos enfants. Comment est-ce qu'on prend soin de ces générations à venir, comment est-ce qu'on les aime, comment est-ce qu'on prend soin d'eux. Voilà un petit peu ces perspectives, et du coup derrière je trouve que la démarche à suivre, c'est un petit peu comme quand on est sur un sujet, puis il y a des frères et sœurs qui nous amènent à prendre conscience d'un péché dans nos vies. Au début, on ne le voit pas, et puis tout d'un coup, on le voit, et on se dit, mais Seigneur, je reconnais, je me repens, je cherche Dieu, et je l'appelle à l'aide pour nous guider. Et je trouve que là, c'est un petit peu aussi une démarche qu'on peut suivre, de vraiment chercher la face de Dieu dans la prière, dans la méditation, essayer de comprendre quels sont les projets qu'il peut avoir pour nous. Comment est-ce qu'il veut qu'on réfléchisse à consommer différemment, à peut-être même revoir nos plans de travail, de carrière. Moi, par exemple, personnellement, au début, je me destinais à travailler dans des grandes boîtes en me disant je vais m'investir dans la vie active, j'aurai une carrière dans laquelle je vais servir Dieu là où je serai. Et c'est un peu le rôle que je me voyais avoir dans cet engagement-là, et j'ai complètement revu mes plans et je me suis dit peu importe la direction de carrière que j'ai vraiment envie que le travail sur lequel je suis soit quelque chose qui contribue à aider sur ces aspects-là, à me mettre en mouvement, à essayer de respecter plus Dieu dans la création, dans mon travail, à vraiment me mettre en cohérence tout ça. Donc je dis pas que ça doit forcément être votre cas, mais c'est un peu un chemin. Ce sur quoi je peux vous encourager, c'est de se dire que c'est un peu un chemin sur lequel vous pouvez réfléchir, vous pouvez méditer, en parler avec d'autres, avoir des petits groupes peut-être avec lesquels vous priez, et pas forcément trouver, dire un tel ami il fait ça, il faut absolument que je fasse ça. Je pense qu'on a tous des chemins individuels qui peuvent être différents. Donc l'essentiel, c'est pas de se dire voilà, il y a un seul chemin dans le sens décision, modèle de vie à suivre, où il faut qu'on soit tous vegan, il faut qu'on soit tous exactement sur les mêmes comportements, mais vraiment suivre un chemin individuel dans notre perspective avec Dieu. Voilà, on sait que de toute façon on reste pécheur, on ne pourra pas devenir parfait, mais voilà, Dieu nous encourage à cheminer avec lui dans la sainteté. Je vous partage juste aussi une dernière petite image que je trouve intéressante. Quand on voit l'ampleur des défis, on se dit voilà, c'est à l'échelle humaine, c'est compliqué. Ok, Dieu il nous offre son salut, mais du coup concrètement, ça veut dire quoi pour le réchauffement climatique? Ça veut dire quoi pour la crise de la biodiversité? Ça veut dire quoi pour tous ces défis-là? Moi, une perspective que j'aime bien avoir, c'est l'image de la multiplication des pains, où voilà, en fait, ce que Dieu peut nous encourager à faire, c'est amener nos pains et nos poissons. Nos petits pains et nos petits poissons, et c'est derrière lui, dans sa grâce, qui, peut-être si c'est son plan, va démultiplier ça. Mais voilà, à la fin, la solution, c'est vraiment, ça vient de Dieu, c'est par sa grâce qu'il pourra démultiplier nos actions. Mais c'est pas nous qui allons amener des pains et des poissons pour 5000 personnes pour résoudre tous les problèmes. Mais c'est pas pour autant qu'on fait rien, c'est pas pour autant que voilà, on en reste là. Voilà, Dieu accepte et prend volontairement voilà, toutes nos petites démarches de pouvoir s'avancer, pouvoir amener quelques pains et quelques poissons. Voilà, c'était, j'ai l'impression que j'étais speed. Je voulais essayer de tenir un petit peu aussi le timing. J'espère que c'était, que c'est des perspectives qui vous aident un peu à réfléchir, qui peuvent peut-être vous nourrir aussi. Je vous encourage vraiment à reprendre éventuellement ces chapitres 1 à 3 de la Genèse et Romains 8 aussi. Comme je disais aussi avec Arocha, on a vraiment à cœur d'apporter des clés, de former sur ces aspects-là, donc à la fois de mettre à disposition des ambassadeurs pour les églises et aussi de mettre à disposition des formations pour, voilà, pour tout un chacun qui souhaite creuser un peu plus ces sujets. Ça peut être par des lectures, par des livres, mais ça peut être aussi juste en participant à des formations, à des voilà, l'été on organise des camps où on fait des zooms tous les mois sur des thématiques assez précises. Par exemple, on va faire quelque chose sur le plaidoyer, sur l'éco-anxiété, sur voilà, sur le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment des thématiques qu'on couvre sur lesquelles on essaie d'apporter une perspective chrétienne. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à voir comment est-ce que ces sujets-là résonnent dans vos cœurs, comment est-ce que vous mettez ça sur la table, entre guillemets, dans vos temps avec Dieu, comment est-ce que ça vous conduit dans une vie de prière sur ces sujets-là, et voir ce que Dieu prévoit, parce que je pense que c'est aussi une manière à travers laquelle il peut vraiment nous transformer et nous aider à remettre en question par rapport à la consommation, par rapport à énormément de choses qui nous entourent, et faire de nous des témoins, celles et lumières qui sont encore plus pertinents dans la société qui nous entoure. Je vais peut-être juste prier, parce que c'est vrai que je n'ai pas prié au début, et par rapport un peu à tout ce qu'on s'est dit. Et ensuite, je pense qu'on aura peut-être le temps de prendre quelques questions, et après surtout se remettre en petit groupe pour... exprimer un peu tout ce que vous avez à dire peut-être dans les petits groupes, et aussi passer du temps dans la prière. Donc, juste prendre quelques instants pour prier. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la beauté de ta création, pour ce que tu as créé qui est bon. On est vraiment reconnaissant d'être au bénéfice de ton salut et de ta grâce face à tout le chemin de la chute, de toute la rupture de la création, Seigneur, tous ces dérèglements qui sont vraiment les conséquences de la chute et de notre péché. On veut vraiment se tourner vers toi pour que tu nous éclaires et que tu nous conduises. Je te prie pour chacune des personnes ici qui a pu peut-être mettre des mots sur des choses qu'ils avaient déjà en tête ou découvrir des choses nouvelles. Je te prie que tu sois vraiment inscrit dans les cœurs de chacun comme l'espérance profonde et ancrée dans laquelle, vers laquelle on se tourne. Qu'on puisse vraiment se sentir entre tes mains face à tous ces défis. Et je te prie aussi que tu nous parles chacun individuellement sur quels sont les projets que tu as pour nous sur ces thématiques-là. Peut-être que tu as aussi d'autres projets sur d'autres thématiques et c'est toi qui parles au cœur de chacun, Seigneur. Mais voilà, je te prie que tu inspires chacun et que tu permettes à chacune des personnes ici de vraiment méditer ces sujets et de voir comment est-ce que ça peut les inspirer dans leur cheminement avec toi. Voilà, je te prie pour encore les petites discussions en groupe et que ça puisse contribuer à édifier et à faire grandir chacun ici, Seigneur. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez peut-être quelques questions. Ça peut être par rapport à la fresque. Voilà, s'il y a peut-être des questions qu'on n'a pas trop eu le temps d'adresser dans les groupes ou peut-être juste là par rapport un peu à l'intervention ou même aussi par rapport à Arosha. Je vais prendre 2-3 questions et puis après on passera sur les groupes. Oui. Honneur au.
Il y avait des cartes d'action, on a vu les conséquences, l'impact sur l'environnement, etc. Ouais. T'as pas des cartes comment nous on peut agir dans la vie quotidienne?
Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que dans le thème, j'ai oublié de faire un récap de la fresque. Il y a énormément de choses disponibles sur Internet. Je ne sais plus si on a un truc comme ça sur Arosha. Il y a un blog qui est très bien qui s'appelle Famille Chrétienne, je crois. Je pourrais peut-être vous le renvoyer. Mais en gros, peut-être pour reprendre la fresque, vous avez vu un petit peu dans les activités humaines au début, les principaux leviers sur lesquels on peut influer sur notre consommation. On va dire que c'est donc sur les transports, c'est principalement le fait de moins prendre l'avion ou ne plus prendre l'avion. Moi, par exemple, c'est un choix que j'ai fait où je me suis dit que j'avais pas besoin de prendre l'avion et voyager à travers le monde pour être heureux, que Dieu avait d'autres projets pour moi et que c'est plus des projets de bonheur que le monde me propose, mais que moi, en tant que chrétien, je suis pas obligé d'acheter parce que j'ai du bonheur ailleurs d'une certaine manière. Donc j'ai pris la décision de ne plus prendre l'avion pour mes loisirs, alors que j'avais beaucoup pris à un moment. Il y a aussi l'agriculture, et derrière, c'est la consommation de viande. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder à travers les Écritures, à travers l'Ancien Testament, de voir aussi un peu toute la signification qu'il y avait derrière les sacrifices, derrière le fait de prendre une vie animale pour en faire de la viande. Aujourd'hui, on est vraiment passé dans une société d'ultra-consommation de la viande, où on peut manger de la viande matin, midi, soir. Donc là, il y a peut-être aussi une sorte d'excès sur lequel on peut essayer de travailler un petit peu plus notre rapport à la consommation de viande. Et après, c'est vrai qu'essentiellement, les principaux leviers, c'est de consommer beaucoup moins. Et c'est là-dessus, ce que je disais, c'est que je trouve que s'engager dans ces réflexions, ça peut vraiment nous emmener en tant que chrétiens à revoir notre rapport à la consommation. Se demander, à quel point est-ce que la consommation, c'est vraiment une part essentielle de notre bonheur, ou est-ce que notre bonheur, on le tire en autre chose? Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment des sujets qui peuvent nous amener très efficacement à bien réfléchir sur ces aspects-là. Ouais. Voilà, mais je suis désolé, j'ai pas réfléchi à avoir un truc spécial précis pour répondre à la question, par exemple, avec une page web. Je regarderai après ça, ouais. Oui. Oui, je crois que c'était Kylian, c'est ouais. Ça.
Non, c'était la même question sur les leviers.
Oui.
Savoir aussi, c'est lié. Est-ce qu'il y a sur un site ou quelconque plan de transformation qui est plus adressé aux églises, peut-être
ouais.
Sur comment est-ce que dans nos églises, en tout cas, on peut avoir un impact
Alors, pour les églises, il y a un outil super qui s'appelle Église Verte. Dont Arosha est un des membres cofondateurs et c'est aussi une Église Verte, c'est un label qui va pas dire si une église elle est parfaite, elle est verte. Non, la démarche c'est plutôt de de dire, voilà, en tant qu'Église, on veut s'approprier cette thématique et se mettre en mouvement dessus. Et l'Église verte, en fait, c'est une boîte à outils qui permet de voir un peu tous les aspects liés à ça, que ça peut être même s'assurer que ça fait partie de l'enseignement, aussi un peu de la liturgie, s'assurer que voilà, on passe aussi pas mal de temps dans la contemplation de la création, pas trop, mais quand même un minimum, dans la gestion des locaux. Enfin voilà, donc c'est vraiment un bon outil. La meilleure manière de le lancer, bon, c'est d'aller voir sur le site internet, et c'est assez bien expliqué, et puis après voilà, d'en parler avec vos conseils d'église, et en général ça marche quand même bien quand il y a une petite équipe qui se met sur le sujet et qui est prête à porter le sujet auprès de l'église pour être un peu les animateurs sur le sujet. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet assez efficacement de mettre en mouvement l'église. Alors c'est pas à l'échelle individuelle, mais c'est vraiment au niveau de l'église, ouais. Et c'est aussi un outil qui est œcuménique, donc sur lequel les cathos, les réformés se mettent aussi en mouvement. Donc ça donne aussi des occasions de partage œcuménique qui peuvent être intéressantes. Ouais.
Merci.
Ouais.
Moi j'avais juste une question. Des fois quand je parle d'écologie à les chrétiens, il y en a certains qui me disent bah, « en fait c'est à cause de la chute, c'est le péché, De toute façon on aura une nouvelle terre, donc voilà.
Ouais. »
Et donc voilà, donc c'est un peu... Mais si on leur explique qu'il y a des conséquences sur les autres, ils vont dire oui, mais c'est le péché qui est là, voilà, c'est dans le plan de Dieu, enfin, dans le plan de Dieu, il va nous sauver ouais. De toute façon. Donc voilà, c'est un peu dur de trouver des arguments pour sensibiliser ces personnes. Donc,
ouais. Ouais, tout à fait. Ouais.
Je rebondis, l'argument sur ces 2 Pierre 3 qui dit que la terre va pas. Enfin, on a l'impression que la terre ne va pas rester, que du coup ce sera une nouvelle terre, et du coup cet argument un peu souvent qui avance.
Mm-hmm. Oui, une image que j'avais entendue une fois que je trouvais pas mal, c'était imagine un enfant un peu gâté par son père, à qui son père offre une Ferrari. Et je trouve que c'est un peu ça fait un peu enfant. Enfant gâté de se dire que ah bah, je sais que derrière mon père il m'offrira une Porsche, donc je peux éclater ma Ferrari. Et du coup je trouve que c'est un peu une manière aussi de voir notre rapport à la création, c'est que Dieu nous a offert la création, derrière peut-être qu'il va renouveler cette création, mais est-ce que c'est une excuse pour autant de complètement massacrer et quand Dieu quand dans Genèse 1 Dieu dit c'est bon, enfin c'est cette création qui est bonne. Et il y a pas mal d'autres versets aussi dans la Bible où voilà, on comprend vraiment que Dieu il est attaché à la création, il est attaché à la nature, il nourrit les animaux, etc. Donc quand on fait du mal à la création, Dieu ça l'attriste. Donc déjà, il y a un petit peu ces arguments-là. Et puis après aussi, ouais, de se dire, je trouve que c'est un argument facile, mais en fait complètement... qui justifie complètement un immobilisme par rapport à ce sujet et de ne pas vouloir reconnaître un peu le péché individuel qu'il peut y avoir là-dessus, parce que c'est vraiment juste une manière de justifier son propre péché, quoi. Et je trouve que c'est pas... c'est un petit peu une réponse que je donnerais, mais se dire que... ouais, c'est pas parce qu'il y a par exemple des pauvres dans la rue qu'on se dit que ça sert à rien de venir en aide aux pauvres. On sait que on a tous, on a un rôle à jouer. Alors on peut pas avoir un rôle à jouer sur absolument tout, mais Dieu il nous encourage à être respectueux sur un maximum d'aspects. Ouais.
Désolé, mais je rebondis juste.
Ouais.
J'amuse un peu, mais j'ai aussi cette partie où ils disent bah en fait c'est les gros industriels qui font nous, à notre petite échelle de consommateurs, on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait vraiment qu'il y ait des lois internationales qui soient mises en place.
Ouais.
Voilà, et qui fait qu'il y a un certain immobilisme. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien, ça ne sert à rien de me bouger si ceux qui font vraiment le plus du mauvais quoi, dans tout ce qui est environnement ne bougent pas de leur côté.
Ouais. Là, je suis d'accord. Là, c'est le côté où on sent que la solution humaine, elle ne va pas marcher. Parce que... Mais c'est là où du coup on peut se dire, nous en tant que chrétiens, est-ce qu'on a envie d'être les derniers ou les premiers? On dit qu'on a plutôt envie d'être sel et lumière et d'être plutôt exemplaire que du côté des tirs au flanc qui sont un peu les derniers. Moi, je change une fois que tout le monde a changé, que les Indiens, les Chinois, etc. Enfin, je pense que ce n'est pas le rôle qu'on veut porter en tant que chrétien. On veut plutôt être dans ceux qui montrent vraiment l'exemple et qui sont vraiment sel et lumière dans la société. Et où on se dit, ah ouais, eux quand même, ils sont engagés, etc. Ouais. Je vois qu'il est déjà 55. Je me dis, si on veut vraiment tenir un peu le timing, je pense qu'on peut arrêter sur les questions et passer au petit groupe. Après, moi, je pense que je peux peut-être rester un petit peu pour aller déjeuner aussi avec vous, si vous voulez continuer à discuter, avoir les questions, etc. Mais histoire de pouvoir libérer ceux qui voulaient peut-être partir à 13h, 13h05, je propose qu'on passe au petit groupe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, mais je pense qu'on fait direct plutôt prière dans les groupes. Je ne sais pas s'il y a vraiment un temps de discussion.
On fait direct un temps de prière par groupe.